Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Mohamed, Bertrand, Mathieu et Patrick et une nouvelle première ministre, la première femme d'ailleurs à Matignon depuis 30 ans, Édith Cresson. C'est le sujet de votre édito, Patrick?
Absolument.
C'est tout, pas un mot. Vous nous dressez le portrait.
Je vais raconter les multiples vies d'Elisabeth Borne avant d'accéder à Matignon.
On commande cette nomination qui est officielle depuis 18h22 avec le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir. Dans le reste de l'actu, Émilie, votre choix?
Une question locale mais une polémique nationale. Le burkini qui pourrait faire son retour dans les piscines de Grenoble s'est débattu en ce moment au conseil municipal et c'est un conseil électrique.
Et on en parle avec le philosophe et essayiste Raphaël Enthoven qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story?
Ça y est, on a retrouvé les sourires des gens bougons, des grimaces, dans le RER, dans le métro, dans les tramways, dans tous les transports collectifs. Le masque est désormais plus obligatoire dans les transports en commun. Je me suis rendu dans la gare la plus fréquentée d'Europe, c'est la gare du Nord. Je peux vous dire que les gens sont contents.
Soulagés et heureux, on voit ça dans votre story. Et dans le 5 sur 5, Mathieu?
Moi, je vais vous parler d'une course écolo et mixte. Il ne s'agit pas de la course à Matignon, Babette, mais de la première course mondiale de trottinette électrique.
Elle n'était pas écolo, la course à Matignon, parce qu'il y a eu des allers-retours, là, pas mal dans la journée en voiture.
Peut-être qu'il y avait des véhicules hybrides, je ne sais pas. Non, là, ce sera une course à trottinette, des véhicules, des trottinettes qui vont à 100 km/h.
Nos invités du dîner, c'est aussi la première femme à diriger le tournoi de Roland-Garros. Amélie Mauresmo sera notre invitée juste après 20h. Marc Lévy sera également là autour du dîner préparé ce soir par un chef étoilé du restaurant Le Chiberta. C'est dans le 8e arrondissement de Paris. Bonsoir. Christophe Castaner m'expliquait que c'était un jeu basque, une sorte de...
On est dans la culture basque, là.
Voilà. Mais que vous cuisinez tout sauf basque, Irwin Durand, c'est ça?
Tout à fait, oui. On est sur une cuisine gastronomique française où on s'amuse en fait à rajeunir les classiques de la cuisine française.
Voilà. Merci beaucoup, chef.
Je vous en prie.
À tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Elisabeth Borne, femme, techno et de gauche.
Voilà, qu'est-ce qu'une femme techno de gauche? Alors femme, je ne vais pas vous faire un dessin, d'ailleurs il paraît que les jeunes avec Macron l'appellent déjà Babette. C'est la première fois, donc vous l'avez dit depuis 30 ans, 11 000 jours, que le Premier ministre n'est pas un homme. Édith Cresson, qui n'avait passé qu'un peu plus de 10 mois à Matignon, n'est plus une exception. Mais là s'arrête la comparaison. Mitterrand avait choisi Cresson parce qu'il aimait chez elle le parler cash, le naturel, la gouaille. Le résultat fut catastrophique, un festival de maladresse et de fautes politiques, ce qui n'empêche pas l'ex-Premier ministre, avec l'aide de journalistes oublieux, de se présenter aujourd'hui comme une victime du sexisme. Rien de tout cela chez Elisabeth Borne. Pour la gouaille, il faudra repasser après 5 ans au gouvernement, au transport, à la transition écologique, puis au travail. Je vous mets au défi de vous souvenir d'une saillie, d'un éclat, d'une répartie, ou alors c'est un talent qu'elle s'est ingénié à cacher. D'ailleurs, ingénieur, c'est son métier. Diplômée de Polytechnique puis des ponts, l'école des ponts et chaussées qui a formé bien davantage de constructeurs et d'entrepreneurs que de politiques. Sadi Carnot, le président de la République assassiné en 1887, est l'une des rares exceptions.
C'est ce qui fait d'elle une techno?
Oui, quelqu'un de moins habitué aux élections qu'aux nominations. Jamais élue, Elisabeth Borne connaîtra le baptême du feu électoral aux législatives dans le Calvados. Jusqu'à son entrée au gouvernement il y a 5 ans, elle avait alterné les cabinets ministérielles, les entreprises publiques, SNCF, RATP, les transports parisiens qu'elle a présidé 2 ans et la préfectorale en Poitou-Charentes. Une carrière très bien remplie, 1000 vies, pourrait-on dire, 1000 bornes. Si je vous le permettez, c'est un profil assez ressemblant finalement à celui de, un profil assez ressemblant à celui de Jean Castex. C'est celui d'une personnalité qui ne fera pas d'ombre au président de la République. Personne ne regardera Madame Borne comme la chef de la majorité, rôle habituellement dévolu au Premier ministre, mais accaparé depuis 5 ans déjà par Emmanuel Macron lui-même.
Femme, techno et de gauche.
Alors de gauche parce qu'elle a accompagné longtemps des politiques de gauche, des socialistes. Lionel Jospin, deux fois au ministère de l'Éducation, puis à Matignon de 97 à 2002, comme conseillère au transport. Jack Lang à l'éducation aussi. Bertrand Delanoë, elle a été directrice de l'urbanisme à la mairie de Paris. Ségolène Royal, dont elle a dirigé le cabinet au ministère de l'écologie après l'avoir côtoyée en Poitou-Charentes. Mais cette étiquette de gauche lui sera contestée par ceux qui se sont dressés contre les deux grandes réformes qu'elle a menées à bien durant ce quinquennat, celle de la SNCF, qui s'est accompagnée, on s'en souvient, de la plus longue grève de la compagnie ferroviaire depuis 1995, et celle de l'assurance chômage. Contestation qui a commencé. Elisabeth Borne est parmi les figures les plus dures de la maltraitance sociale. C'est signé ce soir Jean-Luc Mélenchon.
On va revenir sur les critiques qui tombent sur comme à gravelotte de la part de l'opposition. Marine Le Pen, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord,
s'ils avaient fait des compliments, on aurait été surpris.
Voilà. Mais d'abord, Elisabeth Borne à Matignon. C'est une surprise ou pas, Christophe Castaner?
Écoutez, c'était une des hypothèses dont beaucoup parlaient et sur laquelle le président de la République a porté son choix. Mais une fois n'est pas coutume, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'édito de M. Cohen. Et je dis une fois n'est pas coutume parce que je suis un fan, moi, de votre émission et d'habitude, je suis d'accord. Mais Elisabeth est une politique. C'est une politique qui est ministre depuis 5 ans. Oui, mais elle fait de la politique. Vous savez, au moment où on annonçait le mur du chômage en 2021, quand elle met en place le dispositif « Un jeune, une solution », on accompagne 4 millions de jeunes, on leur évite le chômage, on les amène vers l'emploi. Est-ce que c'est faire de la politique? Moi, je pense que oui. Et est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite? Je pense qu'en plus, c'est quelque chose qui ne mérite pas une étiquette de droite ou de gauche, mais c'est quelque chose qui est efficace. De la même façon, hein, alors j'entends Jean-Luc Mélenchon nous expliquer que la réforme de la SNCF, c'est terrible, c'était la casse sociale. Mais moi, je crois que c'est aussi être de gauche que de ne pas accepter les régimes spéciaux pour quelques-uns payés par tous. Et donc, on a mis en place cela et la réforme de la SNCF, qui était considérée comme impossible, elle l'a fait.
Oui,
elle
c'est comme ça que vous l'avez surnommé d'ailleurs. Ministre des réformes impossibles, rendu possible. C'est le surnom que vous lui avez donné à Babette Borne.
Oui, parce que j'évoquais cela il y a quelques mois déjà. Et c'est vrai qu'il y a les deux réformes qu'on dit toujours totalement impossibles. Ouais. Celle de la SNCF qui était attendue. N'oublions pas que la SNCF allait dans le mur d'un point de vue financier. C'était une situation ingérable à moyen terme. Elle a su redresser la SNCF. Et sur le chômage, elle a effectivement porté le combat contre le chômage et fait en sorte qu'on assume de réformer le principe de l'allocation chômage à un moment où vous avez un taux d'emploi exceptionnel qu'on n'a pas connu depuis 50 ans dans notre pays. Il faut se donner les moyens de pousser les femmes et les hommes qui le peuvent vers l'emploi.
Avant de poursuivre sur Elisabeth Borne, un mot sur ce choix-là. D'autres noms ont circulé ces derniers jours, et notamment celui d'une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Catherine Vautrin. Est-il vrai que vous faites partie de ceux qui sont proches, vous vouliez poser la question, des proches d'Emmanuel Macron qui se sont dressés contre cette hypothèse de nomination à Matignon de Catherine Vautrin?
Non, c'est faux, je ne me suis pas dressé. Le président de la République, vous savez, a l'habitude d'échanger avec un grand nombre de personnes. Il leur demande leur avis. Et d'ailleurs, il ne vous donne pas son sentiment après une discussion sur un sujet aussi important que la nomination du Premier ministre. Et j'ai eu l'occasion d'échanger sur différentes personnes qui étaient susceptibles de venir
Et de lui dire à quel point c'était une mauvaise idée, selon vous?
Non, je n'ai pas... Je préfère vous répondre
franchement. Mais ça aurait été une bonne idée, un passé sarkozyste, ses positions, son soutien à la manif.
Je préfère prendre du temps à commenter la décision du président de la République.
Oui, mais ça a pris tellement de temps, Christophe Castaner, qu'on imagine que d'autres hypothèses ont été évoquées. Parce qu'Elisabeth Borne, elle était favorite au soir même de l'élection d'Emmanuel Macron. Dès le lendemain, on lui posait la question de savoir si elle était Premier ministrable. 22 jours plus tard, c'est elle qui est nommée.
Non, mais d'abord, le mandat du président de la République s'est terminé la semaine dernière. Dans les jours qui ont suivi, il propose la nomination d'une première ministre. Et dans les jours qui viennent, il proposera, en lien avec, sur sa proposition à la première ministre, la constitution du gouvernement. Donc voilà. Après, vous savez, il y a plein de noms qui sont sortis. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient été réellement étudiés, travaillés. On est dans cette période où, justement, la capacité du président et de ses proches de tenir le secret fait qu'il y a eu plein d'emballements sur plein de noms. Je pense que pour la plupart, ils étaient faux. Et donc, en l'espèce, maintenant, personne il a choisi
refusé,
Elisabeth Borne.
Personne n'a refusé, par exemple, les propositions du président Macron.
C'est le sentiment que j'ai. Mais en même temps, je ne suis pas au cœur de toutes les discussions. Mais je crois que certaines personnes qui ont pu évoquer cela n'ont pas été approchées directement par le président de la République. Mais voilà, il y a toujours dans ces moments plein d'emballements. Les journalistes pressent et tentent de savoir en off, commentent. C'est parfaitement légitime. Commentons le fait qu'aujourd'hui, la France a un Premier ministre, une Première ministre en l'espèce, mais surtout une femme de caractère, une femme qui s'est forgée dans le travail, par le travail, qui porte un niveau d'exigence. Et je la connais bien du quotidien. Elle descend jusqu'au détail. Maintenant, elle va devoir animer le projet d'Emmanuel Macron avec l'animation politique d'un gouvernement.
Patrick ?
Donc, vous n'avez pas démenti le fait que...
Non, je ne l'ai pas commenté, parce que sinon, il y a même d'autres noms qui ont été évoqués. Peut-être que j'avais un avis sur les autres noms, ça nous prendrait beaucoup de temps. Et mon avis compte peu. Il se trouve que le président de la République a été réélu président de la République et qu'il a choisi une première ministre.
Oui, mais ça va imprimer ce début de deuxième quinquennat.
C'est important, évidemment. Vous avez raison.
Les mêmes compétences au masculin, ça n'intéressait pas le président. Il fallait que ce soit une femme, le symbole était plus fort que tout.
Alors il y a la force symbolique, mais surtout ne réduisons pas Elisabeth Borne à son genre. C'est une femme politique d'expérience qui a fait 1000 métiers et qui aujourd'hui est à mon sens la plus compétente pour porter cela. Alors, elle est nommée, et donc laissons-la à l'œuvre. Mais voilà, et c'est une femme, et je pense que symboliquement, c'est bien.
D'ailleurs, pour l'anecdote, enfin non, pas plus que pour l'anecdote, symboliquement, c'est la première ministre, puisque c'est dans le communiqué de l'Élysée, alors qu'en 91, 88...
C'était le premier ministre, encore premier, à l'époque.
Pardon, 91, Edith Cresson a été nommée premier ministre.
Mais d'ailleurs, vous rappeliez que ça datait de Lionel Jospin, cette féminisation des fonctions.
Je disais que Lionel Jospin avait pris une circulaire où il demandait à féminiser toutes les professions dans la fonction publique, dans l'autre fonction publique, pour les ministres, de dire Madame la ministre. Et je pense que c'est important, effectivement, de considérer qu'il n'y a aucun métier qui appartient à un homme, et encore moins en politique. Moi, j'ai la chance d'être à la tête d'un groupe politique qui a 50%, 49% de femmes députées. C'est historique. Le taux de féminisation à l'Assemblée nationale est historique, et c'est mon groupe, principalement, qui a contribué. En volume et avec la parité, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout cela soit d'évidence. Et oui, heureusement qu'on peut féminiser les professions, toutes les professions. Mais vous savez, je suis sûr que si on réfléchit, il y a quelques années, on disait un journaliste pour parler d'une femme qui faisait aussi cela parce qu'il n'y avait pas de femme journaliste.
Il y a longtemps,
Non, bien sûr.
Il fallait une femme parce qu'il fallait une femme pour d'abord le genre.
Mais je ne crois pas. Enfin, vraiment, je suis même intimement convaincu que Emmanuel Macron n'a pas choisi Elisabeth Borne d'abord pour son genre, mais surtout pour ses compétences. Après, je vous le dis, je pense que dans le moment politique qui est le nôtre, avoir la nomination comme chef du gouvernement d'une femme est une bonne nouvelle.
En tout cas, avant d'être première ministre, elle a été la première femme à devenir préfète de région, et c'était en 2013.
Mauvaise depuis le début de l'année, touche particulièrement les agriculteurs.
On vient de le voir.
L'état de catastrophe naturelle concerne les particuliers, les entreprises, les commerces.
Si ça doit arriver,
il faut que les maires saisissent les préfectures. Chacune des préfectures au niveau des départements de la région vont recueillir des éléments auprès de Météo en France et on va saisir la Commission nationale pour qu'elle prenne
ça
une décision très vite.
Avant elle, il y a eu une seule femme à avoir dit. En 91, d'ailleurs, si on va plus loin, c'était il y a 31 ans, jour pour jour, parce que Edith Cresson avait été la date de passation était le 16 mai 1991. Et il faut que vous écoutiez les réactions recueillies ce jour-là, dans la rue à Paris.
J'adore les femmes, alors pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait pas de femmes au gouvernement ? Hein ?
Elle est très belle, très bien conservée, c'est fantastique.
Une femme, une seule. Peut-être, ouais, peut-être un peu réussir, mais il faudrait qu'on l'aide aussi, les ministres, les conseillers, tout ça, il faudrait qu'ils l'aident.
On ne peut pas révolutionner un monde qui est déjà géré par des hommes, donc mais si une femme est là, elle ne va pas changer grand-chose.
Hein. Ouais, c'est bien qu'il y ait une Margaret Thatcher de gauche.
On n'est plus comme il y a 100 ans, bah oui, une femme peut gouverner, mais il ne faut pas toutes les mettre ensemble quand même, hein, sinon elles vont se bien dur.
Voilà, on partait quand même de loin sur cet avou. L'an dernier, Edith Cresson se rappelait très bien de ce contexte sexiste, il faut le dire. Elle se rappelait aussi de ce que lui avait dit François Mitterrand à l'époque.
Je lui ai dit « ils seront furieux ». Et quand il a insisté, je lui ai dit « il aurait peut-être fallu y penser avant » quand il m'a dit qu'il voulait qu'avant la fin de son mandat, une femme soit Premier ministre. Bon. J'ai fini par accepter, parce qu'il a beaucoup insisté, mais franchement, c'était la pire période. C'est la deuxième partie du deuxième mandat. Il y a beaucoup de candidats, curieusement, qui veulent être Premier ministre. Il y avait Bérégovoy et puis il y en avait d'autres qui intriguaient comme des fous pour être Premier ministre, comme si c'était un but. Et ensuite, ils m'ont rendu la vie très difficile.
Que pensait François Mitterrand des attaques dont vous étiez l'objet ?
Ah ben, il était furieux. Il m'a dit, je me souviens de sa phrase, « Ils ne vous lâcheront jamais ».
Alors, à l'époque, elle n'avait pas vraiment de conseils à donner à la future première ministre. Il y en avait une, juste bien du courage. Édith Cresson, qui estime aujourd'hui également que ce n'est pas le pays qui est machiste, mais c'est la classe politique. Vous êtes d'accord ?
Moi, j'ai vu souvent la classe politique être machiste, et donc je ne peux pas le contester. Et c'est un combat que nous devons mener en permanence. Il y a eu des grandes lois qui, notamment, ont mis en place des quotas. Par nature, les quotas, ça peut paraître un peu inutile, mais en réalité, c'était des conquêtes nécessaires. Et nous avons mené des combats progressistes pendant ce quinquennat, qui, sur les questions d'égalité, doivent nous obliger à ne jamais se contenter des égalités formelles, théoriques, mais aller toujours vers les égalités réelles. On l'a fait avec la PMA, on l'a fait avec la prolongation du délai sur les IVG. On l'a fait avec une loi sur l'égalité économique entre les femmes et les hommes, parce que c'est vrai que le monde politique peut être machiste, même si les choses ont très sérieusement progressé, et heureusement, et c'est un minimum, mais le monde économique aussi, notre société peut l'être, évidemment. Quand on voit les images dans la rue, les choses ont changé, mais je pense que le mal dominant est toujours prêt à surgir.
Cette nomination, elle marque plus la continuité que la rupture. Est-ce que la rupture se fera dans la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne ?
Mais je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a été réélu. Il n'a pas été réélu pour faire de la rupture. Il a été réélu pour poursuivre des transformations en profondeur.
Avec une nouvelle méthode, quand même.
Avec une nouvelle méthode et aussi un projet politique qui n'est pas le même. Le rôle d'Elisabeth Borne sera de mettre en œuvre cette nouvelle méthode et ce projet politique sur lequel Emmanuel Macron a été élu. Et je sais, et on l'a vu, première préfète de région, je sais la capacité, son expérience et le savoir-faire d'Elisabeth Borne pour travailler sur la méthode que nous devons changer effectivement en profondeur. C'est le souhait du président, mais c'est surtout le souhait des Français qui l'ont réélu, et puis sur nos objectifs politiques, notre ambition politique. Alors j'ai vu le déferlement de contestation immédiat, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon avec son arrogance habituelle parler de sa prédécesseure alors qu'elle vient juste d'être nommée. C'est sûrement une forme d'humour. Je veux dire, en matière de machisme, les deux tweets qu'il a fait, mais celui qu'il fait aujourd'hui sur Elisabeth Borne est pas mal.
Quand il la compare à l'une des figures les plus dures de la maltraitance sociale ?
Oui, et puis même l'expression, je les ai reprises, mais la semaine où mon prédécesseur va être désigné. Déjà, le pluriel n'existe pas chez lui. Et puis, grande tension avant la nomination de mon prédécesseur.
Personne ne veut du job, bon, oui.
C'est un CDD de mission d'intérim. Il faut rappeler à Jean-Luc Mélenchon que pour la troisième fois, il a perdu l'élection présidentielle, qu'il est arrivé en troisième position et que la modestie devrait l'amener à penser qu'on va laisser les électeurs s'exprimer lors des élections législatives avant de s'auto-désigner Premier ministre.
C'est
au point de combat qu'il...
C'est pas du machisme spécialement, ça.
Pourquoi ne pas féminiser ? Je pense qu'on peut féminiser aussi. Et c'est un choix. Il savait pertinemment, quand il fait son tweet cet après-midi, que l'hypothèse était la plus sérieuse d'une femme. Non, il le refuse.
Emmanuel Macron a trouvé sa Madame Thatcher. Ça s'est signé Fabien Roussel ou encore Marine Le Pen. En nommant Elisabeth Borne comme Premier ministre, Emmanuel Macron démontre son incapacité à rassembler et sa volonté de poursuivre sa politique de mépris, de destruction de l'État, de saccage social et de racket fiscal, sans oublier le laxisme qui conclut la citation de Marine Le Pen.
J'aimerais, si je pouvais, j'irais répondre à leur tweet en disant « Alors vous pensiez à qui ?» Parce que de toute façon, quelle que soit la personne qui aurait été nommée à Matignon, le tweet était déjà écrit, à la fois pour Jean-Luc Mélenchon, pour Fabien Roussel ou pour Marine Le Pen. C'est dommage. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer cette décision. Il faut lui faire confiance à Elisabeth Borne pour faire des propositions sur la composition gouvernementale. Et puis, il faut se mettre au boulot.
Justement, avec quelle première grande réforme ?
De toute façon, il y a un certain nombre de sujets qui sont dans nos priorités. Le premier sujet, c'est une grande loi sur le pouvoir d'achat avec des engagements forts, comme l'indexation sur les retraites à minimum à 4,5% dès le mois de juillet. Et nous, et je dis nous, la majorité présidentielle, je ne sais pas si j'en ferai partie, je suis candidat aux élections dans mes Alpes-de-Haute-Provence. Et nous voterons ce texte assez vite avec, par exemple, une prime de pouvoir d'achat pouvant aller jusqu'à 6 000 euros net par mois, pour cet été et qui sera défiscalisée et sans charge sociale aussi. Et donc, c'est notre priorité. Mais il y a aussi l'école, l'environnement et la santé qui sont les quatre axes majeurs sur lesquels nous devons très vite être dans l'action.
Vous avez envie d'être ministre ?
Alors, Vous savez, la liste de ceux qui ont été ministres, de ceux qui aspirent à être ministres, est toujours beaucoup plus longue que la liste de ceux qui le sont.
Mais vous, Christophe Castaner,
Moi, j'ai adoré les fonctions ministérielles qui ont été les miennes, parce qu'elles sont exceptionnelles. Et donc, si on j'avais la possibilité, je le ferais. Mais une chose est sûre, ou porte-parole du gouvernement, ou ministre en charge des relations avec le Parlement. Et donc, voilà. Mais vous savez, on n'est pas candidat et on ne fait pas de lobbying pour cela.
Vraiment ?
Ah oui, enfin, pour ma part, je ne ferai ni l'un ni l'autre.
Est-ce que ce gouvernement va s'ouvrir à des personnalités issues de la société civile, comme ça a été le cas ?
Ça a été le cas il y a 5 ans, avec un renouvellement en profondeur, à la fois de nos candidats aux législatives, et là, dans les décisions que nous avons prises, même si nous maintenons notre soutien à la plupart de nos députés sortants, il y a de nouvelles personnalités qui nous rejoignent, et je ne doute pas qu'il y aura de nouvelles personnalités dans le gouvernement. Mais comme, et on le sait au moins depuis une heure, je ne suis pas Premier ministre, je n'aurai pas à faire des propositions au président de la République, et je fais confiance à Elisabeth Borne et au président pour porter aussi ce besoin de renouvellement, mais en même temps, le besoin d'expérience. Et Elisabeth Borne a cette expérience, ça nous est utile et ça nous sera utile.
Vous restez avec nous le temps de la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, la fin d'une mesure qui devait être temporaire.
Oui, ça y est, on a revu des sourires, mais aussi des grimaces dans les transports en commun en France. Depuis ce lundi, l'obligation de porter un masque dans les transports collectifs a pris fin. Plus de masques dans le métro, dans les gares, dans le bus ou dans les taxis et dans les avions. J'ai pu me rendre à la gare du Nord, la gare la plus fréquentée d'Europe. C'était la libération pour certains Français.
Plus de masques déjà dans le métro, c'est merveilleux.
Oh, c'est quand même plus confortable, hein. Surtout que comme il fait lourd, là on transpire, donc c'est vrai qu'on sent mieux. Hein.
C'est une libération.
Retour à la normale, enfin après 2 ans, c'est génial.
Ça fait du bien, c'est une sensation de liberté. Et puis voilà, donc on retrouve un peu la vie d'avant, quoi. Voilà, celle qu'on avait un peu oubliée.
On revient au naturel, on revient à ce qu'on connaissait avant et ça fait du bien.
Ça y est, on est vacciné, j'ai eu le Covid, donc allez, c'est terminé, derrière nous.
Malgré les contaminations en forte baisse, malgré le recul des admissions quotidiennes à l'hôpital, comme en réanimation, et la baisse du nombre de malades pris en charge, certains qui rentraient chez eux à Amiens ou qui allaient travailler en Belgique ont fait le choix de conserver le masque.
Un petit train, il y a beaucoup de monde, on est les uns sur les autres, donc je préfère garder le masque.
C'est quand même un endroit confiné où il y a beaucoup de personnes.
Je suis étudiante infirmière, j'ai l'habitude de le porter tout le temps. Donc c'est vrai que j'ai du mal à l'enlever en fait.
Le niveau de contamination reste encore un peu élevé, donc c'est plus par souci de précaution.
C'est fait même bizarre de l'enlever. Hein.
On s'est également rendu dans le métro sur la ligne 4, une des lignes les plus fréquentées par les Parisiens. À vue de nez, j'ai pu constater qu'un usager sur deux, en moyenne, conservait le masque dans la rame. Mais dans l'ensemble, les Parisiens sont divisés sur cette question.
Je trouve qu'il y a trop de promiscuité et de potentielle contamination.
J'ai pris l'habitude de le garder, alors du coup, pour moi, ça me dérange plus.
Ça vous fait quoi de le retirer enfin, officiellement et légalement ?
Liberté.
Je savais qu'aujourd'hui, j'étais libre.
Ça redonne du sourire, des expressions et de la lumière dans les yeux.
On a l'impression qu'on peut enfin sociabiliser avec les gens, les voir sourire. C'est un vrai changement.
Moi, je comprenais pas pourquoi c'était maintenu encore en permanence comme ça, dans les transports.
Le masque n'est désormais plus obligatoire nulle part en France, exception faite des établissements de santé et médico-sociaux comme les hôpitaux, pharmacies ou EHPAD. Malgré la levée de cette restriction, les associations de personnes immunodéprimées appellent à la vigilance au micro de Louis Amar.
Décisions comme celles-ci sont prises, on a l'impression, sans prise en compte de leur situation particulière et des risques importants qu'elles encourent. Alors, des risques à titre personnel, mais aussi des risques d'encombrer les hôpitaux et les réanimations. C'est vrai que certaines de ces personnes aujourd'hui deviennent hésitantes alors qu'elles avaient repris des habitudes dans les transports. Elles essaient de trouver d'autres solutions, ce qui n'est pas toujours possible. Et nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il y ait un message davantage de solidarité en direction de l'ensemble des Français. On aurait aimé qu'on leur propose de conserver le masque pour protéger les personnes les plus fragiles de façon collective.
Autre changement important à compter de ce lundi, le masque n'est plus obligatoire dans les avions et les aéroports de l'Union européenne. Alors, on connaît la réponse pour Patrick Cohen qui va le conserver, Christophe Castaner, mais vous comptez garder le masque dans les transports collectifs ?
Écoutez, je vais vous parler d'expérience. J'étais ce matin sur le marché de Forcalquier, chez moi, et j'ai pris un transport collectif pour venir ce soir à Paris. J'ai gardé le masque pendant le voyage et je nous conseille...
C'était un avion, un train
Et je nous conseille collectivement de garder le masque de façon systématique. Pour ce qui me concerne, non, parce que j'ai ma voiture qui m'attend à l'aéroport. En fait, je laisse une voiture à Paris, à l'aéroport.
Oui, donc vous avez pris l'avion.
C'est un avion, voilà.
Oui, oui, mais la particularité dans mon cas, c'est que je suis toujours une personnalité protégée.
Ah oui.
Et donc, du coup, pour les raisons logistiques, les voitures sont toujours sur les zones gardées des aéroports.
D'accord. Et vous recommandez donc
de garder le masque.
De garder le masque. Mais il ne s'agissait plus de le rendre obligatoire. Quoi. Il fallait mettre un terme à cette mesure qui devait être temporaire, qui a quand même
duré
plus de deux ans.
Les chiffres de ces derniers jours, on doit quand même être à 20 000 cas par jour de cas Covid. Mon chiffre est plus exact. Vous voyez, il y a quelques semaines, on serait arrivé avec le chiffre exact, on aurait parlé du chiffre exact. Mais on est dans une situation où le Covid est toujours là. Et donc, il vaut mieux se préserver, et en particulier sur les gens qui peuvent porter des fragilités. Et donc, chaque fois que l'on peut, dans les transports en public, compte tenu de la promiscuité, ça a été dit, je pense qu'on a tout intérêt à garder le masque.
Merci beaucoup, Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci de votre présence ce soir. Vous devez vous rendre à Matignon.
Alors, je vais essayer, si la cérémonie n'est pas trop engagée. Jean Castex m'a sollicité, et donc, du coup, j'irai volontiers de ce pas.
On me dit que ça n'a pas commencé. Donc
alors
vous
c'est
êtes
parfait,
dans les
je vous remercie du timing parfait de votre
vous
émission.
Vous allez pouvoir saluer Jean Castex qui donc met un terme à 682 jours à Matignon et qui rentre content, je crois soulagé. Hein.
Oui, et en même temps, heureux. Plus de 330 déplacements partout en France. C'était aussi sa marque de fabrique. Et il a été un grand serviteur du gouvernement et j'ai eu plaisir à travailler avec lui comme président du groupe.
Merci beaucoup, Christophe Castaner, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous, juste avant de filer à la passation de pouvoir et entre Elisabeth Borne et Jean Castex et son départ de Matignon. Émilie, c'est une polémique qui enflamme Grenoble et bien au-delà. Son maire écologiste Éric Piolle veut autoriser le burkini dans les piscines de sa ville et son conseil municipal en débattait et en débat toujours à l'heure qu'il
est. On débat toujours, oui, tant les débats sont électriques, difficile donc d'en connaître l'issue. En effet, le sujet divise jusqu'au sein de la majorité Europe Écologie Les Verts de la mairie. Voici un peu l'ambiance.
Vous semblez nous dire, ne craignez pas l'eau qui mouille. Je vais vous accompagner doucement dans le petit bain des grands idéaux. Vous rappelez au passage d'où vous parlez. Du grand plongeoir d'une de ces cinq communes reconnues compagnons de la libération.
Pourquoi, selon vous, les Grenoblois et les Grenobloises devraient accepter de subir dans leur vie de tous les jours les conséquences de votre obsession à avancer sur une question dont l'intérêt pour la ville est nul ?
Vous êtes à nouveau un partenaire de l'islam politique et cela est confirmé par les positions que vous avez prises et les subventions que vous avez déjà accordées.
Sur le modèle d'Éric Zemmour, tu utilises une communauté religieuse. Mes amis de la communauté musulmane de Grenoble, que je connais bien et au sein de laquelle j'ai de nombreux amis. Tu utilises cette communauté qui n'a rien demandé.
Vous qui allez condamner à travers toute la France les dérives dès que vous en trouvez une, vous fermez les yeux sur celle de l'extrême gauche à Grenoble.
Tant sur l'intérieur comme à l'extérieur, juste avant ce conseil municipal a eu lieu une manifestation devant le siège de la métropole où nos reporters Eben Rice et Audrey Payas étaient. Manifestation menée par le groupe d'opposition de droite, certes, mais y participaient aussi des manifestants qui se revendiquent de gauche.
Éric Piolle, démission ! Éric Piolle, démission !
Ah bah moi je suis complètement contre. Figurez-vous qu'en France, les hommes n'ont pas le droit de se baigner avec un caleçon. Hein, vous le savez pertinemment. Pourquoi elles auraient le droit de se baigner en habit complet ?
C'est pas un petit peu exagéré ce qui est écrit sur votre pancarte ?
Non.
Je vous pose la question.
Pas du tout. Ça, c'est pas du tout de la religion, c'est du communautarisme.
Il y a fondamentalement des gens de gauche, moi j'en suis, je pense pas être la seule, qui sont contre cette permission-là.
On se dira, il y a Rennes, donc il y a Grenoble, donc pourquoi il n'y a pas toute la France ?
Ce qui agace aussi ces manifestants, c'est que la question semble déjà tranchée dans la tête du maire Éric Piolle. Il y a eu ces affiches, par exemple, de la ville dévoilées comme si elles étaient déjà prêtes à être distribuées. Pour assurer votre sécurité dans l'eau, tous les vêtements conçus pour la baignade et près du corps sont autorisés, où l'on devine l'un des symboles qui représente le burkini. Et puis, il est au milieu, deuxième ligne. Et puis, il y a eu cette vidéo d'Éric Piolle.
Je suis et nous sommes profondément universalistes. Et donc, ça veut dire qu'on veut un service public accessible à toutes et à tous. Et on veut que tout le monde puisse se baigner les seins nus, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on puisse se baigner avec des maillots couvrants, qu'on soit un homme ou une femme, pour des raisons qui peuvent être n'importe quoi. On peut avoir des cicatrices, on peut avoir un rapport au corps, temporel ou permanent, qui fait qu'on a envie de se couvrir, on peut vouloir se protéger du soleil, on peut avoir des convictions religieuses. À la piscine, c'est hygiène et sécurité. Et l'universalisme, c'est la lutte aussi contre les discriminations et les discriminations cumulées.
Le port du bikini, c'est ce que réclament aussi quelques associations. L'association Alliance Citoyenne, par exemple, réputée proche du maire Éric Piolle, qui dénonce un système où les femmes n'ont que deux choix de maillot, une pièce ou un bikini. Pour ou contre, à la sortie des piscines municipales de la ville aujourd'hui, les avis étaient bien plus nuancés aussi.
Vous m'avez dit que vous veniez régulièrement dans cette piscine. Est-ce que ça vous embêterait de voir des femmes vêtues d'un burkini qui se baignent ?
Absolument pas. Moi, pour moi, c'est quelque chose de normal. Enfin, toutes les religions ont le droit de faire ce qu'elles souhaitent.
Non, moi, ça ne me pose pas de problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, c'est vrai que nager en piscine, c'est plus simple quand on est en maillot, mais bon...
Ça ne me gênerait pas du tout, personnellement. Je serais très contente de voir des femmes en burkini se baigner à mes côtés, ici.
Bonsoir, Raphaël Antoven.
Bonsoir.
Essayiste, philosophe, éditorialiste au journal Franc-Tireur. Éric Piolle, le maire de Grenoble, veut lever les interdits vestimentaires aberrants au nom d'une nouvelle liberté. S'agit-il d'une fausse liberté, selon vous ?
Ah, c'est une liberté... On peut dire que c'est une liberté liberticide. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une liberté supplémentaire. Mais comme c'est la liberté de porter un vêtement qui en lui-même est prosélyte et qui en lui-même témoigne de l'asservissement de la femme, c'est une liberté qu'on peut dire liberticide. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est passionnant dans ce débat, au-delà de la question du burkini, c'est une question républicaine, est-ce que défendre la liberté, est-ce aussi défendre la liberté de se soumettre ? Tout simplement. Vous savez, c'était le dilemme de Daenerys dans Game of Thrones. Quand elle prend Meereen, la ville de Meereen, elle supprime l'esclavage. Et trois jours plus tard, quelques jours plus tard, un esclave vient la voir et lui dit « Pardon ma reine, maman, il l'appelle, ouais. Pardon maman, mais je voudrais retourner en esclavage. » Mais pourquoi, lui dit-elle ? Mais parce qu'au moins je mangeais. Et la voilà confrontée à un dilemme qui consiste à opposer sa propre conception de la liberté à la liberté qu'on a de penser autrement. Et elle est républicaine, à mon avis, au sens où elle accorde à l'esclave le droit de faire le choix, qui est le choix de la servitude. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est là le défi qui est lancé. Il y a une phrase qui résume les problématiques autour du burkini, qui est de Roger Paul Droit, que je trouve définitive, qui dit « Je suis contre le burkini, donc je suis contre son interdiction ». Être contre le burkini, c'est être contre tout ce que le burkini signifie, et par là même, l'interdire, c'est aller dans le sens de ce que signifie le burkini, c'est-à-dire un vêtement prosélyte et censeur.
Donc, à ce titre-là, je
réclame à la fois le droit, le voisinage des burkinis et des seins nus, ça me... Voilà.
Oui, parce qu'Éric Piolle oppose deux libertés. Voilà. La liberté de cacher son corps avec un burkini et la liberté d'être topless à la piscine.
Il y a deux choses. Il est absurde d'opposer ces deux libertés. Ça n'est pas la même liberté. Il y a dans un cas une liberté qu'on a mis du temps à conquérir, si j'ose dire, c'est-à-dire le droit d'être seins nus, effectivement. Qui n'est pas toujours acquis d'ailleurs. Et puis, il y a dans l'autre cas, la liberté qui est exactement, comment dire, la liberté de se soumettre ou la liberté d'afficher sa propre soumission.
Ce n'est pas la liberté du rapport au corps, ceux qui sont très pudiques et ceux
Bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle il n'appartient pas à la loi. Et c'est là, il y a beaucoup de malentendus là-dedans. D'ailleurs, on voyait parmi les manifestants, il y a des gens de droite qui s'opposent au burkini au nom de la France, et il y a des républicains de gauche qui s'opposent au burkini au nom de la République. Dans cette histoire, le problème du burkini, si vous voulez, c'est que il n'appartient pas à la loi d'entrer dans les raisons de chacun. Quelqu'un vous dit « moi je porte le burkini, c'est mon choix ». Il n'appartient pas à la loi de contester la liberté de la personne qui dit « mais c'est mon choix ». Il n'appartient pas à la loi de dire « mais enfin pas du tout, ma grande, t'es sous emprise, en fait pas du tout », etc. Ceci n'est pas le problème de la loi et en cela, le genre de liberté dont la loi est garante implique la liberté de se soumettre.
Donc, l'autorisation des burkinis vous paraît tout à fait normale à Grenoble, comme à Rennes, où ça fonctionne,
Elle me paraît aussi normale que le droit de critiquer vertement ce vêtement, que le droit de s'indigner que des femmes souhaitent se baigner dans une cage, que le droit de dénoncer le burkini, même à la façon de Riz qui dessinait, je me souviens, un concours de sac à patates à l'entrée de la piscine de Grenoble dans Charlie Hebdo. Je veux dire, allons jusqu'au bout de la liberté. accepter effectivement, c'est-à-dire, ok, très bien, dont acte, mais dans ces conditions, alors, parlons de ce vêtement.
Oui,
parlons
justement.
De ce vêtement et indignons-nous, peut-être.
Contre ce vêtement.
C'est-à-dire, indignons-nous du vêtement et indignons-nous de l'usage de la rhétorique féministe à l'appui d'un tel vêtement. Laissez-nous choisir notre vêtement, ou comment il dit ça, notre maillot. Mon corps, mon choix, mon maillot. Ceci peut être contestable, ceci peut être profondément contesté parce que ça n'est pas encore une fois la même liberté, la liberté d'avorter par exemple, ou bien la liberté d'afficher encore une fois le symbole de son infériorisation, de son invisibilisation ou de sa soumission.
Version islamique du voile aquatique, c'est ça le burkini pour vous ? C'est une définition que donnent certains de ses opposants.
J'aurais tendance à dire islamiste, peut-être, plus qu'islamique, me semble-t-il. Je vois... Mais pourquoi pas ? Mais j'insiste sur ces deux échelons de liberté qui sont très importants. Vous avez la liberté, qui est la liberté en société. Il n'appartient pas à la loi de savoir ce qui vous fait décider ce que vous décidez. La loi organise la coexistence des libertés, quels que soient les choix qu'on fait. Qu'un choix soit vraiment un choix, c'est une autre question, mais c'est une question qui ne ressort pas de la loi.
Et quand certaines femmes demandent des horaires de piscine séparés pour ne pas avoir à se baigner sur le regard des hommes, ça c'est abject.
Ça c'est abject, parce que c'est pas la même chose. C'est pas le même problème. Ça c'est abject. Ça c'est pour le coup inégalitaire, me semble-t-il. Ça pour le coup c'est abject. C'est pas possible, c'est inacceptable. Et pour le coup, c'est la non-mixité à l'intérieur des piscines est aussi intolérante que dans toute autre circonstance. Donc ça me paraît indéfendable. En revanche, qu'on ait envie de se baigner dans un scaphandre avec le visage caché, je doute que le principe de plaisir entre dans cette décision. Il me paraît que c'est plutôt la soumission à un patriarcat islamique, mais enfin, peu importe. Si c'est le choix, entre guillemets, de quelqu'un, je nous vois mal fondés à l'interdire. Voilà.
C'est marrant parce que vous n'évoquez pas du tout la dimension politique de l'initiative du maire de Grenoble.
Son éventuel clientélisme.
Souvent été dénoncé par ses opposants. Et on sait qu'il y a une association très active à Grenoble qui milite depuis longtemps pour la levée de cet interdit dans la piscine municipale. Et donc là, on est dans une période aussi particulière.
Il y a deux problèmes, mais vous avez tout à fait raison. Que l'association Alliance Citoyenne fasse de l'antrisme depuis des années et des relations d'ailleurs conflictuelles avec Éric Piolle, tantôt distendu, tantôt de grands rapprochements et aujourd'hui quasiment de fusion, et que le maire de Grenoble soit manifestement dans la main d'activistes, c'est possible. Mais ce sont deux problèmes. Il y a le comportement politique, la façon, les calculs politiques d'un élu qui essaie de verrouiller sa majorité, j'en sais rien. Et puis il y a la question de la liberté en République, qui est une question fondamentale et qui est une question dont il faut assumer l'extrême difficulté. C'est-à-dire que c'est une question qui va en deçà des raisons profondes pour lesquelles on porte un vêtement plutôt qu'un autre. Encore une fois, ça n'est pas le problème de la loi. Voilà. Et donc il y a vraiment deux domaines. Il y a le domaine politique, il y a la question de l'entrisme, il y a la question effectivement, de ce qui se passe avec Alliance Citoyenne à Grenoble ou ailleurs, il y a la question des maires complaisants, il y a la question de la cancel culture derrière ça. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'œuvre là-dedans, des questions politiques. Et on peut combattre politiquement Éric Piolle. En revanche, le libéral que je suis se retrouve un peu démuni, si vous voulez, face à une revendication. J'ai beau tenir ça pour un enfermement, si on veut s'enfermer librement, je peux rien contre ça, moi.
Un mot sur une affaire à la une de l'actualité, celle du militant Taha Bouhafs. Oui. Il était pressenti pour être candidat de la France Insoumise à Vénissieux dans le Rhône, mais trois femmes l'accusent de harcèlement et de violences sexuelles. Il ne sera pas candidat. Jean-Luc Mélenchon s'en est expliqué hier sur France 3.
Nous avons une structure à l'intérieur de la France insoumise qui se saisit de ces questions. Cette commission a mis 5 jours à trancher un problème. Nous verrons comment les choses vont
évoluer. Si la justice est saisie ou pas, notamment.
Mais oui, si la justice est saisie ou pas, c'est une situation qui est douloureuse pour tout le monde. Mais nous partons d'un point qui est celui de notre époque. La parole des femmes est prioritaire et c'est elle qu'on croit d'abord. C'est ce que la commission a tranché. Donc, je demande qu'on ne mélange pas les deux. Car voyez-vous, il y a en ce moment,
déchaînement.
La situation d'agression raciste contre Taha Bouhafs et la question que posent les violences sexistes et sexuelles.
Que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon qui dit que Tahabouaf, ça a été victime de racisme ?
Il y a deux choses. Juste un point avant, parce qu'il dit la parole des femmes est prioritaire. Jean-Luc Mélenchon appartient à une formation politique dont les édiles, dont les plus éminentes représentantes, ont soutenu Tahabouaf plusieurs jours après avoir appris les faits dont il était accusé. C'est-à-dire, comment ça se passe ? Je voudrais savoir comment ça se passe quand on est féministe, qu'on veut aller voir dans le lit des gens, c'est-à-dire féministe, vraiment féministe, hyper féministe, ultra féministe. Comment ça se passe quand on pense comme ça et qu'on apprend que des faits sont reprochés à quelqu'un et que 4 jours plus tard, on prend fait et cause pour la candidature à la députation de celui-là. C'est-à-dire, comment ça se passe ? Cette subordination du féminisme à l'antiracisme, à mon sens, ça témoigne du fait que la France insoumise est contaminée jusqu'à la moelle par l'intersectionnalité. Pour le dire très rapidement, l'intersectionnalité apparaît dans les années 70-80, à la fin des années 80, théorisée par Kimberlé Crenshaw. L'intersectionnalité, au départ, la convergence des luttes, c'est le féminisme et l'antiracisme, parce que ce sont les femmes afro-américaines qui subissent le racisme et le sexisme. Et donc, elles doivent lutter sur les deux fronts. Le problème, c'est qu'avec les années, le féminisme a été désormais l'intersectionnalité, c'est l'autre nom d'une minoration du féminisme au profit de l'antiracisme. Et ce qu'on a vu là est exemplaire. Pendant plusieurs jours, elles ont défendu la candidature de Tahabouaf parce qu'il y avait du bénéfice à prendre, du bénéfice antiraciste à prendre. On peut en parler après du racisme en question. Il y avait du bénéfice antiracisme à prendre là-dessus, et ceci passait avant le témoignage des victimes. Elle savait ce qui lui était reproché et elles l'ont soutenu quand même. On peut prendre la chose comme on veut. Ceci est inqualifiable. Et quant au racisme dont Tahabouaf a fait l'objet, ils ont raison. Tahabouaf a fait l'objet de racisme. Le seul racisme, à mon avis, dont Tahabouaf a fait l'objet, c'était les tweets qui expliquaient que parce que cet homme était arabe, il était innocent. Et que parce que cet homme était arabe, c'était pour cette raison qu'on lui en voulait. Que parce que cet homme était arabe, il n'était pas raciste lui-même alors qu'il avait été condamné pour injure publique à raison de l'origine. Le racisme, c'est le fait de considérer que l'origine de Tahabouaf l'immunise contre toute responsabilité qui incombe à un élu et à un citoyen engagé. Donc, le racisme était là, à mon avis.
Vous êtes très en colère, Raphaël.
Contre cette histoire, oui.
Contre cette histoire,
oui. Alors là, pour le coup, le féministe que je suis est furieux, effectivement. Parce que là, je ne vois pas comment on peut s'arranger avec soi-même du fait qu'on a dit... comment on peut s'arranger avec soi-même quand on est féministe et qu'on soutient quelqu'un dont on sait qu'il est accusé de viol, des faits d'une gravité exceptionnelle. Et même, par exemple, comment on peut dire qu'on a réglé l'affaire en 5 jours ? La personne, Sandrine Rousseau, qui a dit que l'affaire avait été réglée en 5 jours, est quelqu'un qui, depuis des années, à juste titre, nous parle des violences qu'elle-même a subies. Comment peut-elle considérer qu'en 5 jours, se réjouir ou se féliciter, qu'en 5 jours, on ait réglé l'affaire ? Une affaire qu'on règle en 5 jours, c'est une affaire qu'on enterre. Ceci est fou. Et ce qui est insensé dans cette histoire, pardon, au-delà de Tahabouaf, des agresseurs, il y en aura toujours, agresseur putatif, il y en aura toujours, c'est le statut du féminisme à l'ère de l'intersectionnalité. C'est-à-dire, que reste-t-il des droits des femmes ? Que reste-t-il de la cause des femmes à l'époque où l'antiracisme, un antiracisme devenu, à mon avis, délirant, passe avant, en toutes circonstances ? C'est ce qui s'est passé là.
Vous restez avec nous, Raphaël Antoven. D'autres sujets à vous soumettre dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Salut Mathieu.
Mathieu. Dans le 5 sur 5 ce soir, la tuerie de Buffalo aux États-Unis.
Oui, c'était samedi. Buffalo, c'est dans l'État de New York, un attentat raciste.
News out of Western New York continues this hour. Police say an 18-year-old man dressed in tactical gear and protective armor opened fire at a grocery store in Buffalo.
This was at a supermarket in a largely black neighborhood in Buffalo.
The 18-year-old suspect killed 10 people and wounded 3 others.
The guy go in army style, bent over, just shooting at people, and I heard him shooting at people, and then I saw 3 people laying down.
He was very heavily armed. He had tactical gear. He had a tactical helmet on. He had a camera that he was live streaming what he was doing.
Au moins 10 morts, une majorité de noirs exécutés par un jeune suprémaciste blanc de 18 ans. Il n'a pas le droit de boire d'alcool aux États-Unis, mais Peyton Gendron, c'est son nom, était équipé d'une arme d'assaut, d'un gilet pare-balles. Nous n'allons évidemment pas montrer les images d'horreur de la tuerie en elle-même, mais Peyton Gendron s'est filmé tout le long. Il a diffusé les images en ligne. Vous voyez là son arrivée sur le parking. Il a roulé 3 heures de chez lui, ce qui laisse penser qu'il a bien choisi le lieu, le seul supermarché de ce quartier noir, le plus pauvre de la ville. De l'intérieur, nous ne montrerons qu'une scène, celle où il épargne un homme au sol, un blanc, il s'excuse et poursuit son avancée meurtrière. À l'arrivée de la police, il a d'abord retourné son arme contre lui avant de se rendre. Hier, le président Joe Biden a condamné l'attaque.
Still on, like all of you, pray for the victims and their families. The Justice Department has stated publicly that is investigating the matter as a hate crime, racially motivated act of white supremacy and violent extremism. As they do, we must all work together to address the hate that remains a stain on the soul of America.
Au cœur de Buffalo, vous voyez là des psychologues et des kinés au service d'une population traumatisée pendant que l'enquête se poursuit. Les motivations, l'idéologie du tueur, son arme que vous voyez à l'écran, un fusil semi-automatique AR-15 déjà utilisé par les tueurs d'Orlando, de Las Vegas, d'Aurora, de Sandy Hook, et je ne vous fais pas la liste de toutes ces tueries de masse avec cette arme facile d'utilisation. Sur l'arme de Peyton Gendron, des inscriptions racistes, des insultes au mouvement Black Lives Matter, le mot nigger, nègre, les noirs comparés à des singes aussi, ou encore le nom Anders Breivik, un hommage au terroriste norvégien d'extrême droite qui avait tué 77 personnes, c'était en 2011. Peyton Gendron est poursuivi pour meurtre avec préméditation, mais lors d'une première comparution devant un juge, il a plaidé non coupable. Il a aussi publié un texte, un manifeste de 180 pages. Le texte contiendrait des références à la fameuse et non moins fumeuse théorie dite du grand remplacement.
Americans are being told and being poisoned through the internet, but also through some relatively mainstream media organizations on the right, being told that they're facing a demographic crisis and that they have to stand up for themselves.
The alleged manifesto talks about white people being replaced by people of color, a fear given expression in the so-called Great Replacement Theory.
The Great Replacement Theory is like the Mein Kampf of white supremacists. It basically suggests that white Christian Americans are being replaced by people of color and by immigrants.
La théorie dite du grand remplacement, déjà inspirante, si j'ose dire, pour le tueur de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Théorie d'extrême droite du français Renaud Camus, reprise en France pour la présidentielle par le candidat Éric Zemmour.
Aux États-Unis, toujours des manifestations pour défendre le droit à l'avortement ce week-end.
La Cour suprême menace de revenir sur ce droit constitutionnel, on l'a raconté, et la question s'impose désormais dans le débat des élections de mi-mandat aux USA. Le débat fait rage. Aux États-Unis, à Washington et dans d'autres grandes villes du pays, des milliers de manifestants et manifestantes samedi, les associations appellent à la mobilisation générale face à un recul annoncé du droit des femmes.
It is day one of our feminist future, and it is day one of a summer of rage, where we will be ungovernable, ungovernable.
40 years ago, I was doing this exact same thing, holding these exact same signs.
With Roe in place and legal abortion possible for all women, no matter what their financial background.
If you take away our rights to make our personal decisions about our bodies, we will see you at the ballot box in November. When we fight, we win.
Depuis que la volonté de la Cour suprême a fuité dans la presse, la question de l'IVG est au cœur des débats politiques américains. La semaine dernière, les sénateurs démocrates ont tenté de contrer la Cour suprême en tentant de faire voter une loi nationale fédérale qui garantirait l'accès à l'avortement. Des élus qui savent qu'ils n'ont pas de majorité pour un tel texte. Ce que vous entendez, ce sont les sénatrices démocrates, quand elles arrivaient au Sénat, en scandant le slogan « My body, my decision »,« Mon corps, ma décision ». En face, des arguments parfois surprenants, comme celui de ce sénateur républicain qui compare les fœtus aux œufs de tortue.
Under this radical abortion bill, an unhatched sea turtle would have more protections than an unborn human baby. If you look at federal law, if you were to take or destroy the eggs of a sea turtle, now I said the eggs, not the hatchlings, that's also a penalty, but the eggs. The criminal penalties are severe. Up to a $100,000 fine and a year in prison. Now why? When you destroy an egg, you're killing a pre-born baby sea turtle or a pre-born baby eagle.
À défaut de majorité suffisante pour les démocrates, le résultat de ce vote était prévisible. Ce monsieur que vous venez d'entendre a gagné, la loi a été rejetée.
This bill today is ugly, winner takes all politics. It is full of aggressive pro-abortion provisions.
My granddaughters will have fewer rights than I did. The first generation of women in this country to have fewer rights than their mothers.
It's the Abortion on Demand Act, without restrictions, without limitations.
The motion is not agreed to.
And sadly, the Senate failed to stand in defense of a woman's right to make decisions about her own body.
La décision de la Cour suprême sur l'avortement est attendue pour le début du mois de juillet.
crise politique majeure aux États-Unis.
C'est une crise politique majeure dans la démocratie américaine. Juste pour mémoire, on n'a jamais vu historiquement, même si c'est une démocratie fédérale avec quantité d'États, mais nous n'avons jamais, il n'existe pas historiquement dans l'histoire, une seule démocratie qui soit revenue sur une liberté qu'elle est accordée sans avoir changé de régime. En France, naturellement, sous le régime de Vichy, quantité de droits ont été abolis, mais on n'était plus en démocratie. Un régime, c'est la raison pour laquelle le projet d'Éric Zemmour, à mon avis, n'avait aucune chance, puisqu'il se proposait de supprimer ou d'abroger quantité de choses qui étaient vécues par les gens à qui on les avait accordées comme une partie d'eux-mêmes. Il n'y aura jamais en France quelqu'un qui, à moins d'abolir la démocratie ou la République française, reviendra sur le mariage pour tous, par exemple. Ça n'est pas possible. On ne revient pas sur une liberté qu'on a accordée en démocratie, à moins de ne plus être une démocratie.
Donc c'est ce qui est menacé aux États-Unis.
C'est difficile de dire au-delà, tant c'est important, tant c'est fou, ce combat singulier entre d'un côté la vérité et de l'autre côté la liberté, une certaine idée de la vérité et de l'autre côté la liberté, c'est fou. Mais au-delà de cette question-là, c'est la démocratie américaine elle-même qui est en danger, à mon avis.
Ce week-end, la reine d'Angleterre a rassuré ses sujets.
Oui, Elisabeth est apparue en public. C'est la première fois depuis le mois de mars dernier, mais vraisemblablement, la reine n'a pas voulu manquer ce concours équestre à 96 ans. Ça reste sa passion, premier événement de son jubilé, célébrant ses 70 ans de règne. Arrivée avec un grand sourire, on l'a vu marcher avec une canne. Et pendant le spectacle, il y a même eu une blague en référence à son absence au discours du trône la semaine dernière.
On behalf of everyone here, we'd like to very humbly thank you for choosing us over the state opening of Parliament.
Alors ce monsieur qui a même amusé la reine, vous l'avez vu, voilà les sujets britanniques rassurés avant les festivités prévues pour son jubilé. Ce sera à partir du 2 juin prochain, on vous le racontera évidemment.
Ah bah oui, on sera en spécial.
Tous les soirs dans le 5 sur 5.
Dans le 5 sur 5 ce soir, un nouveau venu dans la famille des sports mécaniques.
Oui, c'est rigolo et écolo. Une toute nouvelle compétition, vous allez peut-être vous y inscrire, vous allez voir Raphaël.
Et la trottinette.
Une course de trottinette électrique, l'e-scooter. C'était samedi à Londres sur un circuit urbain avec des vrais commentaires, comme en Formule 1. Écoutez.
Away in this first ever e-scooter championship race, and what a start it is!
Below Hood.
Whoa. As he passes on the inside, can he make it stick this time?
Oh, and we've got a crash for Vernet.
He comes under pressure again. He just is taking great lines here.
Whoa, that was tight in there. Look at Nehru.
Find a move here. Coming back. He's off! He's off!
Doing a little bit of moving down the straightaway. Whoa, whoa! Wow.
Ça a l'air sympa. Neutralité carbone, c'est sport mixte aussi, spectaculaire. La trottinette de compète a tout pour plaire. Attention, je répète, ce sont des trottinettes de compétition. Elles peuvent atteindre les 100 km/h.
Weighing in at just 40 kilos and using twin 6 kilowatt electric motors, the ESC S1X is capable of speed of more than 100 km per hour. Featuring a lean angle of 55 degrees, every aspect of the S1X has been carefully assessed to ensure environmental best practice.
Ce sont d'anciens de Formule 1 qui ont lancé ce projet, et notamment l'ex-pilote Nico Hülkenberg, qui est patron d'une écurie de trottinettes électriques. C'est un Suisse qui a gagné samedi à Londres, mais c'est la première manche d'un championnat qui en compte 6. Et je sais que vous attendez d'avoir cette information.
Ben oui.
Une étape est prévue en France. Ce sera au mois d'août prochain.
Sur un circuit où en France.
J'attends encore les détails. Sûrement un circuit urbain de ce genre-là. Probablement une ville et banalisée. Comment ?
Et pour être clair, tous les concurrents ont le même engin.
Et ils ont les mêmes.
C'est comme en carte, quoi.
C'est comme en carte, exactement. Et on est sur ces trottinettes. Bon, j'ai passé la fiche technique, je vous l'ai raccourci, évidemment. 100 km/h en vitesse de pointe, hein, pas dans les virages. Je vous sens intéressé. Hein. Il y a des candidats qu'on peut inscrire, peut-être.
Non, mais c'est amusant. Le kart a suscité beaucoup de vocations dans les sports mécaniques. Et c'est bien d'avoir des sports où chacun part avec le même matériel et à égalité, comme des transats à la voile, Jacques Vabre, par exemple.
Patrick Cohen pourrait faire un édito sur les trottinettes électriques. Et vous aussi, Raphaël ?
Oui, mais je n'y ai pas pensé, là, j'avoue. Je suis un peu démuni. Là, je vois une fausse moto, moi, donc j'ai du mal.
C'est bien. Oui, c'est rare qu'on vous trouve démuni, désarmé, face à un sujet.
C'est la trottinette.
Franc tireur, c'est l'hebdomadaire qu'on conseille à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Raphaël Antoven, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Il y a toujours une vidéo avec une trottinette et Patrick aux commandes de cette trottinette qui traîne. Je vous la promets depuis des mois, voire des années. Un jour, elle apparaîtra sur cet écran. Dans un instant.
Vous m'inviterez ce jour-là.
Oui, promis. D'accord. Amélie Mauresmo est notre invitée du dîner. Marc Lévy également. Restez avec nous, la première patronne du tournoi de Roland-Garros. Voilà, c'est des femmes qui arrivent à tous les postes maintenant. C'est comme ça, on va pouvoir s'y faire. À tout de suite.